Chers amis de Radio Présence, nous voici à un moment clé. C'est l'apparition de David. Samuel est allé à reculons vers l'onction de ce nouveau roi, une fois que Saül a été déchu par Dieu. Et il arrive dans la ville de Jessé, et donc c'est toujours en lien avec Bethléem, et il organise un sacrifice pour que les choses soient plus discrètes. Et nous disions que le sacrifice est l'acte liturgique le plus central, et tous les sacrements, en ce qui concerne les chrétiens que nous sommes, tous les sacrements sont ordonnés au sacrifice eucharistique comme à leur centre et à leur fin. Il en va de même pour les sacramentaux. Vous savez que ce sont des rites qui ne sont pas les sept sacrements, mais des rites complémentaires, si l'on peut dire, qui constituent une seconde couronne autour de la messe. Il est recommandé de célébrer, depuis la nouvelle rénovation liturgique, de célébrer les sacrements et les sacramentaux au cours de la célébration eucharistique. Par exemple, le baptême, le mariage, les ordinations sont toujours au cours de la messe, mais aussi la confirmation que se fait au cours de la messe, comme je le célèbre souvent, etc. Et là, bien sûr, la consécration des églises ou d'un autel se fait au cours d'une messe. Donc, vous voyez, c'est vraiment la messe qui constitue le centre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que la messe dans l'église, et les gens qui ne connaissent pas bien notre foi, notre pratique, disent « Oh, c'était une belle messe », alors qu'ils sortent de l'office de vêpres ou de telle ou telle célébration de funérailles, par exemple, où il n'y a pas eu de messe, mais ils disent « C'est une belle messe ». Donc, la messe est au centre, mais n'est pas le tout de notre religion. Et en tout cas, il est recommandé que les sacrements, les sacramentaux soient célébrés au cours d'une messe pour que soit mieux manifestée l'orientation de toute grâce vers la participation au plus grand amour qui reste le mystère du Christ mort et ressuscité pour notre salut. Recevoir l'ordination épiscopale, presbytérale ou diaconale, la bénédiction abbatiale ou l'onction royale au cours de la messe, c'est marquer clairement que les services de prêtre, d'abbé, de roi doivent être exercés jusqu'au bout à la suite de celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Toute sanctification trouve dans l'Eucharistie son principe et son terme. Qui que nous soyons dans l'Église, nous sommes toujours des invités au sacrifice. Une belle expression, comme Jessé et ses fils. Quand Samuel arrive à Bethléem pour offrir le sacrifice et que ses fils, les fils de Jessé, sont réunis autour de leur père, il sait bien qu'il vient oindre un nouveau roi pour Israël, mais Dieu ne lui a pas révélé l'identité de l'élu. Il a seulement reçu cette consigne « Tu oindras pour moi » celui que je te dirai. Samuel en est donc réduit aux conjectures. Et même si l'enthousiasme ne le submerge pas à la perspective du rite qu'il lui faut accomplir, la curiosité de savoir qui va être roi le pique. En toute succession d'autorité, l'attention de tous se porte essentiellement sur l'avenir aux dépens du passé. Le roi est mort, vive le roi ! S'exclame-t-on dans ces circonstances, mais il ne s'agit pas du même roi les deux fois. La première phrase est une constatation, le roi est mort, ou il a fini sa mission, et le second est une acclamation, le roi est mort, vive le roi. Quand un siège de pape, d'évêque ou de président de la République est devenu vacant, on honore assurément celui qui vient de résigner sa charge, mais on se préoccupe surtout de celui qui va le remplacer. Il est naturel que l'on s'inquiète pour l'avenir. Samuel se demande donc face à quel individu le Seigneur va le mettre. De loin, il est séduit par l'aîné, Éliab, et du coup retrouve son allant. Sûrement, le Seigneur a son oint devant lui. La réaction témoigne de l'habitude qu'a le prophète d'agir au nom de Dieu. Se trouvant devant Éliab, il a le sentiment que le Seigneur lui-même est mis en présence de son roi. Cette seule exclamation, nonobstant l'erreur objective qu'elle énonce, en dit long sur la parfaite disponibilité de l'homme de Dieu à tous les vouloirs de son Seigneur et aussi sur son effacement. Dans l'espèce, cependant, il se trompe et le Seigneur, qui n'a pas l'habitude de ménager les siens, en profite pour lui faire une aimable leçon. Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Lors de l'intronisation officielle de Saül, Samuel avait su faire remarquer au peuple la beauté et la force du chef que Dieu venait de leur choisir. « Avez-vous vu celui qui a choisi le Seigneur ? Il n'a pas son pareil dans tout le peuple. En effet, de l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le monde. » Et tout naturellement, Samuel imagine un même gabarit pour le nouveau roi. Dieu, qui est le créateur de l'âme et du corps, ne dédaigne pas l'apparence de l'homme, mais ce qui importe le plus pour lui, c'est l'ouverture et la transparence de l'âme. Dieu regarde l'âme surtout, tandis que l'homme perçoit d'abord les expressions corporelles. Nous savons pourtant que l'essentiel est invisible pour les yeux, selon la teneur du secret révélé par le renard au petit prince de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. Non seulement Dieu regarde au cœur, mais il regarde avec son cœur. Il va droit à l'essentiel avec tout lui-même. Si nous descendons en nos profondeurs les plus authentiques, les plus vraies, nous voyons bien vers où se portent nos désirs. Vers un véritable cœur à cœur avec autrui. Aller avec tout son cœur vers le cœur de l'autre et recevoir en plein cœur le don venu d'un cœur qui aime. Tels sont les échanges pour lesquels nous sommes faits, telle est la relation que Dieu nous offre. « Mon fils, exhorte-t-il par la bouche des sages, ouvre-moi ton cœur et que tes yeux suivent la direction que je te montre. »